Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ White Rose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un des groupes britanniques les plus emblématiques du hard rock et qui serait à l'origine de ce qu'on appelle le heavy metal, le stoner et le doom. Il est bien sûr question de Black Sabbath. On va se concentrer sur leur période la plus marquante dans les années 70, mais aussi sur tout ce qui s'est passé ensuite. Les changements, les tumultes et toutes ces versions du groupe qui n'avaient plus grand-chose à voir avec l'original. À une époque où l'apogée hippie était à son comble, le groupe s'est formé dans une Angleterre profonde et industrielle. Leur musique et leurs paroles étaient considérées comme incroyablement sombres à l'époque, allant même jusqu'à faire croire sérieusement à certains que le groupe était composé de satanistes. Leur premier album était un condensé de blues jam, mais avec une distorsion de malade et une rythmique assez hypnotique. Black Sabbath avait déjà vu loin en forgeant un son qui allait devenir l'emblème du heavy metal et inspirer des tas de musiciens pour les générations à venir. Juste d'écouter le titre éponyme de leur premier album sorti en 1970. Ce coup de tonnerre initial et ces trois accords dissonants qui l'accompagnent, c'était vraiment le début d'un album et d'un groupe que personne n'avait encore entendu auparavant. Ce qui donne à ce morceau cette aura diabolique, c'est surtout l'utilisation de ces trois accords dissonants, aussi appelés l'intervalle du diable, qui sont souvent utilisés dans le métal. Et avec la voix très reconnaissable et un peu flippante d'Ozzy Osbourne, les paroles semblent tout droit sorties d'un film d'horreur. Le début des paroles, « Qu'est-ce qui se dresse devant moi ?» raconte un cauchemar vécu par le bassiste Geezer Butler. Grand amateur de films d'horreur et de romans sur la magie noire, il a un peu flirté avec l'occulte. Mais après avoir cru voir une ombre diabolique au pied de son lit une nuit, ça l'a tellement effrayé qu'il a vite arrêté ce passe-temps. Le groupe a donc écrit une chanson sur cette expérience que Butler avait vécue qu'ils ont intitulée Black Sabbath. Les quatre piliers du groupe, Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler, de son vrai nom Terence Michael Joseph Butler, et John Michael Osborne, mieux connu sur le nom d'Ozzy, ont tous grandi à Aston. C'était un quartier défavorisé de Birmingham, une ville ouvrière et industrielle. Cette atmosphère a forgé la colère et l'agressivité qui caractérisaient les groupes issus de cette région. Judas Priest est un autre exemple marquant, mais nous en parlerons plus tard dans ce podcast. En réalité, le métal puise ses racines dans le métal au sens propre du terme et faisant référence aux usines métallurgiques et au bruit des marteaux frappant l'enclume, comme évoqué dans le morceau « Between the Hammer and the Anvil » de Judas Priest. Le contexte industriel de Birmingham n'a pas juste influencé le son lourd et sombre de Black Sabbath, mais aussi a contribué à façonner ce qu'ils étaient et ce qu'ils racontaient. Au début, ils ont testé différents styles de rock et ont commencé à jouer sérieusement au Royaume-Uni sous le nom de Earth avant de devenir Black Sabbath. Avec Butler comme principal parolier et Iommi comme compositeur principal, Sabbath a exploré des thèmes comme la guerre, le chaos social, le surnaturel, l'au-delà et le conflit éternel entre le bien et le mal. Les membres de Black Sabbath voulaient vraiment échapper à la routine de l'usine avec leur musique. Tony Iommi, lui, à côté de la musique, occupait le poste d'ouvrier métallurgiste à l'usine pour arrondir les fins de mois. Mais à 17 ans, il se fait sectionner deux phalanges de la main droite par une presse hydraulique et cela a remis en question le futur qu'il s'était imaginé. Au début, il était complètement désespéré et ne voyait pas d'autre option que d'arrêter la guitare. Un ami à lui lui a fait découvrir le guitariste manouche Django Reinhardt et lui a expliqué qu'il ne jouait de la guitare qu'avec les trois doigts de sa main gauche, ayant perdu les autres dans l'incendie de sa roulotte. Cette information a suffi à remotiver Iommi qui a décidé de trouver une solution à son problème. Au début, il tentait de jouer uniquement avec ses doigts valides, mais trouvait cela trop compliqué. Il décide alors d'utiliser toute sa main, mais cela lui fait horriblement mal. Il comprend donc qu'il lui faut une protection pour ne pas mettre directement en contact les doigts mutilés avec les cordes et il a l'idée de faire fondre du plastique pour se créer des prothèses en forme de dés à coudre. Cependant, il ne peut pas appuyer sur les cordes aussi fort qu'avant son accident. Iommi décide alors de les remplacer par des cordes de banjo beaucoup plus fines et s'accordera un ton et demi en dessous. Cette fois, le guitariste a trouvé le moyen parfait de continuer à jouer son instrument et peut reprendre la musique sans problème. Qui aurait cru qu'un accident aussi handicapant pour un guitariste contribuerait à le placer parmi les plus grands guitaristes de l'histoire du rock? Black Sabbath a cartonné tout de suite avec leurs premiers albums, tous les deux devenus disques d'or dans l'année qui a suivi leur sortie. Pour l'album Paranoid, c'était la chanson War Pigs qui était à l'origine censée donner son nom à l'album, mais à la dernière minute, ils ont enregistré Paranoid pour le rallonger un peu. La maison de disques a dit non à l'idée de nommer l'album War Pigs, alors Paranoid est devenu le titre principal et c'est devenu leur premier gros hit à la radio. Cet album est devenu le plus grand succès, grâce notamment à ce deux morceaux et le morceau Iron Man. Et qui aurait cru que Paranoid, écrit en seulement 20 minutes et enregistré en seulement 2 heures, deviendrait peut-être leur morceau le plus connu.
All day.
La musicalité de Black Sabbath était souvent pas assez reconnue. Pourtant, le groupe avait une créativité, une aisance qui, quand on y pense, les place autant dans le rock progressif que dans le heavy metal. Leur morceau le plus long avait souvent des changements de rythme, un peu comme ceux de groupes plus prog, comme Jethro Tull, auquel Iommi a même appartenu un temps et avec qui il a joué dans le célèbre film musical Rock'n'Roll Circus de 68, et Yes, avec qui Black Sabbath a tourné. Ils ont enchaîné les tournées et les festivals de rock au début des années 70. Leur succès aux États-Unis est arrivé très vite aussi. Pour eux, débarquer en Californie depuis leur Angleterre grise et industrielle, c'était comme une vraie révélation. En 1970, ils ont ouvert pour The Faces et ils ont tellement assuré que le public en redemandait. La même année, ils ont partagé la scène avec le groupe américain James Gang et c'est là où ils ont été initiés à des drogues plus dures que le cannabis. Tout ce boulot sur la route les a vraiment fait progresser en tant que musiciens et compositeurs et leurs deux albums suivants, Master of Reality de 71 et Volume 4 de 72, ont montré une évolution, une ambition plus grande, souvent considérée comme leur meilleure sur le plan musical. Master of Reality, leur deuxième album le plus vendu après Paranoid, est reconnu comme à l'origine des styles doom metal, sludge metal et le stoner rock. Pour cet album, Geezer Butler et Tony Iommi ont tous les deux baissé l'accordage de leurs instruments pour obtenir un son encore plus lourd et sombre. Parmi les morceaux qui valent les deux tours sur cet album, on a entre autres Sweet Leaf, où on entend Iommi tousser après avoir tiré sur un joint, et After Forever qui parle de religion, d'espoir et de rédemption. Même en sortant un truc qui pourrait passer pour du Christian metal, Black Sabbath se faisait encore traiter de sataniste. Le dernier morceau de l'album, Into the Void, est super sombre et parle de comment l'humanité détruit la planète sans se soucier des conséquences. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ait beaucoup évolué depuis. Le morceau que l'on va écouter, Children of the Grave, semble tout droit sorti d'un film d'horreur, bien qu'il aborde une thématique anti-guerre. La rythmique syncopée et galopante a inspiré de nombreux morceaux de métal, notamment chez Iron Maiden. Tony Iommi et Geezer Butler étaient très fans du compositeur classique Gustav Holst et on peut entendre l'influence du morceau Mars des planètes de Holst dans le morceau Black Sabbath et Children of the Grave. Avec le rythme fou des tournées et tous les excès de leur style de vie, Black Sabbath commençait vraiment à sentir le poids des années 70. Ils avaient sorti 4 albums qui ont vraiment défini le genre en à peine 2 ans, tout en enchaînant les tournées à un rythme infernal. Malgré leur consommation intense de drogue et d'alcool et les embrouilles dans le groupe, Ils ont quand même réussi, avec Tony Iommi à la production, à sortir leur album le plus ambitieux jusque-là. Volume 4 se démarque avec les ballades et ses morceaux instrumentaux, montrant que le groupe pouvait vraiment aller au-delà de leurs racines heavy metal. Leur cinquième album, Sabbath Bloody Sabbath de 1973, montrait encore plus de maturité et d'audace. Pour ce disque, le groupe a écrit et répété dans un château au pays de Galles qui disait « hanté », ajoutant encore plus à cette ambiance sombre et mystérieuse de leur musique. L'album suivant, Sabotage, contient certaines de leurs chansons les plus enragées. Les titres comme Hole in the Sky et Symptom of the Universe sont vraiment marquants. À cette époque, ils se sont séparés de leur manager Patrick Meehan, conscients de s'être fait rouler, et ont engagé Don Arden pour mettre de l'or dans leurs affaires. Le groupe traversa donc une période trouble où ils ont dû se battre dans des procédures judiciaires. Le titre de l'album vient de cette période où le groupe s'est senti trahi par leur ancien management et leur maison de disques. Cet album est souvent considéré comme le dernier album iconique du line-up classique de Sabbath. Après ça, ils ont sorti la compilation « We Sold Our Soul for Rock and Roll », un nom tellement cool qui résume parfaitement l'état d'esprit du groupe. Les albums d'après, Technical Ecstasy de 76 et Never Say Die de 78, avaient leur moment, mais ils n'étaient pas tout à fait au même niveau que leur premier album et la popularité du groupe commençait à redescendre un peu. Le groupe galérait avec les drogues et y manquait d'inspiration. Ozzy, surtout, était pas content des chansons et passait plus de temps à boire qu'à bosser avec le groupe. Et il a fini par se faire virer. Mais la séparation d'Ozzy Osbourne avec Black Sabbath a carrément lancé sa carrière solo et il est devenu une vraie icône du rock, encore plus célèbre que lorsqu'il était dans le groupe. Il est devenu si grand qu'à un moment donné, il a même invité Black Sabbath, qui était toujours actif, à faire sa première partie. Ozzy a vraiment eu une carrière solo impressionnante. Il a sorti plein d'albums géniaux dans les années 80. Son mariage avec Sharon, la fille du manager de Sabbath, a été super important pour lui. Sharon a été un soutien énorme, surtout quand il avait des problèmes avec la drogue et ses moments de folie. Pendant ce temps, Black Sabbath a continué à avancer, avec Tony Iommi restant au cœur du groupe. Malgré des hauts et des bas et plein de changements de membres, ainsi que quelques flops commerciaux, Sabbath a repris du poil de la bête avec l'arrivée de Ronnie James Dio au chant en 1980. L'album Heaven and Hell, cette année-là, a vraiment remis le groupe sur les rails et a changé leur son, passant d'un style doom metal à un son hard rock plus mélodique. Tony Iommi a remarqué une grosse différence entre Dio et Ozzy, surtout dans leur manière d'aborder la musique. Dio chantait avec une approche plus mélodique et s'adaptait à différents riffs, alors qu'Ozzy collait plus aux riffs. Personnellement, quand j'écoute Sabbath avec Dio, je trouve cette musique épique et ça me donne envie d'aller affronter un dragon. Par contre, quand j'écoute Sabbath avec Ozzy, il y a un côté plus flippant. C'est vraiment deux atmosphères différentes. Avec l'arrivée de Geoff Nichols au clavier, le son du groupe s'est vraiment étoffé. Heaven and Hell a cartonné, tant commercialement que sur le plan des critiques, ravivant l'intérêt pour Black Sabbath. Ils ont enchaîné avec des grandes tournées, notamment en partageant l'affiche avec un autre groupe légendaire, Blue Oyster Cult, et ça a donné naissance au mythique concert live Black and Blue en 1980. 1981, le batteur original Bill Ward a décidé de quitter Sabbath, laissant sa place à Vinnie Appice pour l'album Mob Rules et le live du groupe Live Evil qui est sorti en 1982. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter surtout les deux premiers morceaux de Mob Rules, Turn Up the Night et Voodoo. C'est un album un peu moins connu, mais vraiment bien. Peu après, c'est au tour de Ronnie James Dio de tirer sa révérence pour former son propre groupe, Dio, avec Appice à la batterie et un premier album brillant, Holy Diver. Suivre la carrière de Black Sabbath après ça, c'est un peu comme regarder une série avec trop de saisons. Il y a des changements de casting à chaque épisode et Tony Iommi a été le seul à rester dans le rôle principal sur tous les albums. Pendant qu'Ozzy cartonnait avec Bark at the Moon, le manager de Sabbath, Don Arden, a sorti les grands jeux en recrutant Ian Gillan, qui venait de quitter Deep Purple pour l'album Born Again en 83. Cette période avec Gillan et surtout la tournée de Born Again est devenue mythique pour plein de raisons. Avec le morceau instrumental Stonehenge sur l'album, Don Arden a eu cette idée folle d'un décor de scène inspiré de Stonehenge avec un énorme soleil qui s'élève derrière les pierres pendant le spectacle. Mais voilà, ça a vite tourné au gag dès que les mecs en charge du décor ont mal interprété les mesures données par le directeur de tournée de Sabbath. Ils ont cru qu'il parlait de mètres au lieu de pieds. Résultat, les accessoires de scène livrés à Sabbath étaient trois fois plus grands qu'ils ne devraient l'être. Et comme si ça ne suffisait pas, Don a eu une autre idée lumineuse. Faire grimper en plein concert un nain au sommet du décor Stonehenge, habillé comme le bébé diable sur la pochette de l'album, qui est d'ailleurs considéré comme l'une des pochettes les plus moches qui existent. Lors d'un concert au Canada, le nain devait ramper sur le dessus de la plus grande pierre, sauf que voilà, le matelas censé amortir sa chute avait mystérieusement disparu et le pauvre type s'est sérieusement blessé en tombant. Ça a marqué la fin du bébé diable sur scène. Pour ceux qui ont vu le film Spinal Tap, ça doit forcément vous rappeler la scène où Nigel dessine le rocher avec les mesures sur une serviette de restaurant et leur tour manager se plante dans les mesures en leur livrant des décors de scène non pas trop grands, mais trop petits cette fois. Le film s'est clairement inspiré de Sabbath. Dans un groupe, il y a parfois une sorte d'alchimie qui s'opère entre les membres et c'est ça qui crée la magie. Malgré son talent, Gillan n'était pas un bon match pour Sabbath, il a vite compris et il a préféré arrêter l'aventure. Et le lien entre Sabbath et Deep Purple va plus loin encore. Pour l'album suivant, en 1986, c'est Glenn Hughes qui se retrouve derrière le micro pour Seventh Star. Un critique a même sorti une pépite en disant qu'avec Hughes comme chanteur de Sabbath, c'était comme si James Brown chantait dans Metallica. Ensuite, vers 87, Tony Martin est devenu chanteur et ça a donné toute une nouvelle ère et série d'albums dans les années 80 et 90, comme The Eternal Idol, Headless Cross et Tear. Mais à ce stade, le Black Sabbath qu'on connaissait n'était plus vraiment le même groupe. Le son avait bien changé, il restait plus grand-chose de l'ancien Sabbath, à part la guitare de Tony Iommi, et encore même son style avait évolué. Tony Martin est resté le chanteur le plus longtemps après Ozzy Osbourne, mais ça coïncidait avec une période moins appréciée de Sabbath. Cela dit, ils ont quand même sorti quelques morceaux sympas à cette époque-là, comme Born to Lose sur The Eternal Idol. Après la sortie de l'album Tear en 1990, Tony Martin prend une pause, mais il revient pour Cross Purposes et Forbidden, ce dernier étant souvent considéré comme le pire album de l'histoire du groupe. Entre-temps, Dio est revenu pour l'album Dehumanizer de 1992, qui a marqué un retour au succès commercial pas vu depuis l'album Mob Rules. Et enfin, la grande réunion arrive en 1997 avec Ozzy, Ward, Butler et Iommi qui remettent le couvert pour une tournée et l'album Live Reunion agrémenté de deux nouveaux morceaux, les premiers avec le line-up original depuis 78. Après ça, chacun repart quand même sur ses projets solo avant de se retrouver pour le Ozfest de 2004 et 2005. Ozzy étant devenu une superstar connue de tous grâce à son émission de télé-réalité The Osbournes, il a décidé d'entamer une procédure judiciaire afin que le groupe ne puisse plus utiliser le nom Black Sabbath. Cela a mené à la formation du groupe Heaven and Hell en 2006 avec Ronnie James Dio au chant, Iommi, Butler et Appice. Leur album The Devil You Know de 2009 est une pépite, je l'ai adoré dès sa sortie. Avoir pu les voir au Sweden Rock Festival en 2007 reste l'un de mes meilleurs souvenirs de concert, surtout que c'était la seule fois où j'ai vu Dio en live avant qu'il meure d'un cancer. L'album The Devil You Know est souvent considéré comme le 19e album studio de Sabbath et a un son très heavy et doom. Je dois vous jouer un extrait du morceau Bible Black qui me donne toujours des frissons.
He reached for a book all bound in leather.
Ne s'arrête pas là. Les trois membres originaux de Sabbath, à l'exception de Bill Ward pour des raisons contractuelles, se réforment en 2011 et sortent 13, leur dernier album studio qui clôt le chapitre Black Sabbath pour toujours. Avec leur son original de l'époque retrouvé et leur tout dernier concert intitulé The End Live in Birmingham en 2017, un concert dans leur ville natale, la boucle est bouclée. J'ai eu la chance de les voir sur leur tournée d'adieu également et c'était incroyable. Même si Ozzy n'était pas au top, ça n'enlève rien au fait que j'ai enfin pu voir ce groupe légendaire. Au final, on pourrait dire que l'histoire de Sabbath, c'est surtout celle de Tony Iommi. Il a été le pilier du groupe à travers toutes les épreuves, les transformations musicales et les changements de membres. Certains fans préfèrent que les groupes cessent d'exister lorsqu'ils perdent un membre original, alors que d'autres apprécient que les groupes continuent d'évoluer avec de nouveaux membres. On est sur un sujet de fond assez intéressant et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. De la même manière, j'aimerais bien savoir ce que vous préférez, Sabbath avec Ozzy ou la version Heaven and Hell avec Dio. En tout cas, c'est tout pour cet épisode et je vous retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode de Hooked on Rock. On va finir cet épisode en écoutant un extrait du morceau du dernier album de Sabbath, End of the Beginning. Est-ce vraiment la fin ou juste le commencement?